Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
On dit du pape François qu'il est maître en la matière. Aujourd'hui, elle a envahi nos vies et la manière de dire est aujourd'hui aussi importante que le propos. Vous l'aurez compris, il s'agit de la communication. L'Église sur ce sujet a longtemps été considérée à la traîne, manque de moyens, déconnexion des réalités de ce monde ou prudence de la sagesse. Cela a-t-il enfin changé? Autant de questions que nous allons nous poser ce matin ensemble avec nos invités. Alors, pour parler de cette question, la communication d'église est-elle vraiment missionnaire? Je reçois en plateau aujourd'hui le frère Olivier de Saint-Martin, qui est directeur du pèlerinage du Rosaire et prieur du couvent des Dominicains de Toulouse. Bonjour, mon frère.
Bonjour, Emmanuel.
Natalia Trouillet, qui nous a fait la gentillesse et l'amitié d'être présente au téléphone, journaliste, spécialiste des communications et présidente de Noé 3.0. Bonjour, Natalia.
Bonjour, Joseph.
Alors, on vous entend pas très bien, mais on va régler ça. En tout cas, on a bien entendu que vous nous disiez bonjour. Et Jean-Baptiste Maillard, qui nous rejoindra un petit peu plus tard dans cette émission, qui est en charge de la communication Internet pour la communauté de l'Emmanuel, auteur de Dieu et Internet aux éditions des Béatitudes. Ma première question va vers vous, frère Olivier de Saint-Martin. Le pape François, on dit de lui que c'est une bête de com'. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oh ben je crois qu'il est très bon. Ça, effectivement. Le pape François, quand il communique, s'adresse vraiment, il pense manifestement, et c'est assez jésuite, à la manière dont ce qu'il dit va être reçu par les gens. C'est-à-dire que, il suffit pas de dire la vérité quelque part, il faut la rendre désirable. Et donc, essayer de voir à qui on s'adresse. Bon, j'aimerais dire, c'est quelque chose de base dans la communication, c'est ce que fait Jésus, hein, il sait à qui il s'adresse à chaque fois. Et le pape là-dessus, oui, est très très bon.
Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, quelque chose qui vous a étonné depuis son pontificat? Parce que vous vous débrouillez aussi pas mal, on en parlera plus tard dans cette émission. Mais est-ce que vous vous êtes dit, il est vraiment fort, il y a vraiment quelque chose?
Je me suis pas tellement posé la question, je vous avoue, sur ces techniques de com, parce que je crois que il faut moins regarder la technique de communication que le fond du message. Hein. Le but de la communication, c'est de la pastorale, c'est d'annoncer Jésus, c'est de montrer Jésus. Il faut pas qu'on fasse de la com pour de la com, pour rendre l'Église jolie. Simplement, on est là pour pouvoir donner le message de Jésus, le message de l'Évangile. Alors, moi, je crois que ce qui est très frappant, moi, ce qui m'a frappé, c'est plutôt de me dire, tiens, aujourd'hui, le message est tout à fait reçu. Donc, c'est l'Esprit Saint, hein. Moi, je vois d'abord, c'est l'Esprit Saint qui nous donne le pape qu'il faut au moment qu'il faut. Et de me dire, tiens, qu'est-ce que ça révèle de la manière dont on doit parler de l'Évangile. C'est vrai que ces homélies qui sont toujours très imagées, sa manière de faire les exercices spirituels, j'ai envie de dire à l'ensemble de l'Église, ça marque, ça marche. Donc à mon avis, l'Esprit-Saint est en train de nous montrer un mode différent un peu de communication.
Alors, l'autre question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous, ça vous a décomplexé? Et puis on en parle tout de suite. Vous êtes directeur du pèlerinage du Rosaire cette année. Et vous n'en êtes pas à votre premier fait d'armes, mais vous avez publié une affiche « Tu fais quoi le 7 octobre ?»« J'ai piscine, oui, mais à Lourdes », où on voit un petit enfant sur sa bouée avec ses lunettes de soleil. Avant de parler de cette affiche, vous, est-ce que ça vous a, d'une certaine manière, aidé à continuer à aller dans cette veine-là?
Non, je n'étais pas hyper complexé, je ne crois pas, au moins là-dessus. Non, très clairement, la manière dont les choses se sont faites pour nous, c'est que on assiste à une baisse de la pratique du pèlerinage à Lourdes. Hein. On a des événements comme les JMJ qui motivent des populations relativement jeunes. Mais Lourdes souffrait, à mon sens, pour ce que je vois de mon pèlerinage, hein, qui réunit quand même plusieurs milliers de personnes.
Enfin, quand vous dites ça baisse, c'est-à-dire, vous pouvez donner des chiffres?
Ça baisse, j'ai envie de dire, il y a 5 ans, on avait 18 500 inscrits, cette année, on en a 17 000. Bon, c'est une baisse de 10% en quelques années. C'est pas énorme, enfin, quand même. Et puis, on n'a pas énormément de jeunes. Quelque part, je dirais en plaisantant, ma grand-mère allait à Lourdes, moi, j'y vais pas forcément. Il y a des tas de choses qui me semblent vieillottes à Lourdes. Si je ne fais pas partie de ceux qui connaissent Lourdes, l'image est un peu vieillotte. Alors, j'avais réuni à Paris une quinzaine de personnes qui ne connaissaient pas Lourdes, forcément, qui ne connaissaient pas le pèlerinage du rosaire, et je leur ai montré un peu ce que je faisais en termes d'affiches, en termes de production, et le verdict a été plutôt sec, hein. Et ça a été génial, parce que du coup, on s'est
plutôt
dit...
Plutôt sec, c'est-à-dire plutôt en faveur de cette affiche culottée.
Ah non, pas du tout. C'est-à-dire que tout ce que vous faites, c'est bien, mais en fait, vous parlez d'un lieu, vous ne dites pas qui vous êtes, vous ne parlez pas aux gens de ce que vous vivez, et c'est ce que les gens ont besoin de savoir.
Et donc on vous a dit que votre affiche était mauvaise, en fait.
Les autres affiches, oui.
D'accord.
Donc on a changé, on a mis beaucoup plus de personnes. Et puis il y a une question fondamentale qui s'est posée, c'est de dire, très bien, il y a des tas de gens qui connaissent Lourdes, il y a des tas de gens qui connaissent le pèlerinage du rosaire, on les informe. Mais tous les autres, ceux qui ont une image biaisée de Lourdes, comment provoquer chez eux un petit amusement et peut-être un intérêt? Et c'est là qu'on a réfléchi à plusieurs et... Cette idée de tu fais quoi le 7 octobre, j'ai piscine, c'est Clotilde qui l'a eu, c'est pas moi.
Alors, Clotilde, c'est ?
C'est une jeune graphiste qui...
D'accord, qui travaille avec vous. Est-ce que vous avez eu des réactions ? Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont répondu sur Facebook, via votre page internet Facebook du couvent ou du pèlerinage du Rosaire, en disant bah non, j'avais pas piscine, mais je vais venir aux piscines ?
Alors, ce qu'on a eu, c'est pas une affiche, hein, c'est quelque chose qu'on a mis sur les réseaux sociaux, de publics différents. On en a fait d'autres. On a fait un site qui a repris une vieille expression pour dire le chapelet qui s'appelle j'enfile des perles. Hein, enfiler des perles, c'est dire le chapelet autrefois. Eh bien, on a eu des témoignages qui ont été touchants, des gens qui sont pas du tout dans l'église et qui disent « Ah ben là c'est rigolo, j'y vais. » Enfin, j'y vais. Pas au pèlerinage, hein, mais je vais voir ce que vous êtes.
Mmh. Alors, Nathalie Latrouille, vous nous entendez ?
Oui, très bien.
Oui, bonjour. Alors, donc, je vous repose un peu ma question avant qu'on rentre plus profondément dans le vif du sujet. Vous qui êtes une grande spécialiste des communications, de la communication et entre autres en faveur de l'Église, ou en tout cas au service de l'Église, vous, le pape François, il vous bluffe. Est-ce que pour vous, c'est toujours peut-être des grands mots de journaliste, mais est-ce qu'il y a un avant et un après en matière de communication, au moins de l'Église universelle avec le pape François?
Écoutez, il y a un exemple qui est assez frappant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2010, au plus fort des affaires de pédophilie dans l'Église, le pape Benoît XVI avait fait ressortir un texte qu'il avait rédigé lui-même lorsqu'il était préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi et qui était destiné en fait à dire quelles étaient les sanctions qu'on apportait aux prêtres qui commettaient des actes de pédophilie. Mmh. Et c'est un texte, si vous voulez, sur le fond, qui allait extrêmement loin, beaucoup plus loin que les législations européennes, puisque était considéré comme abusant d'un mineur tout prêtre qui avait une relation avec quelqu'un de moins de 18 ans. Mmh. Vous voyez, donc ça va beaucoup plus loin que toutes les législations qu'on a sur le sujet en Europe, où c'est 15 ans maximum, en fait. Donc, un texte plutôt positif, etc. Le problème, c'est que ce texte a été fait dans un langage très juridique et qu'il disait, en fait, que ben voilà, les délits les plus graves pour un prêtre, c'est de toucher un enfant et puis de célébrer une messe, alors que pour une raison X ou Y, il n'en a pas le droit. Donc, ça a été un tollé incroyable dans les médias en disant pour le pape et pour l'Église, c'est comme ça que ça s'est transformé dans les médias, hein, pour le pape et pour l'Église, finalement, violer un enfant, c'est aussi peu grave que de dire une fausse messe. Et en fait, pour comprendre ce que c'est que l'Eucharistie pour les catholiques et à quel point il y a possibilité de sacrilège quand on ne fait pas les choses correctement, puisque c'est vraiment le corps du Christ, donc c'est à respecter au-delà de tout. Mmh. Et le pape François, lui, dans son retour de Terre Sainte, dans l'avion, il avait dit aux journalistes, parce qu'évidemment il était interrogé sur cette question, il avait dit bah, « En fait, pour moi, un prêtre qui viole un enfant, c'est aussi grave qu'un prêtre qui célèbre une messe noire. » Là, les journalistes avaient très très bien compris, parce que ça parlait leur langage finalement. Ils pouvaient comprendre que derrière la messe noire, il y avait vraiment quelque chose de profondément sacrilège, et donc ils ont dit « Ah ben le pape a évolué, l'église a évolué, etc. » Sauf qu'en fait, Benoît XVI et François ont dit rigoureusement la même chose, mais pas de la même manière.
Alors de fait c'est vrai qu'on sent bien que le pape François a du génie en la matière. Vous avez participé à l'initiative du frère Olivier de Saint-Martin, vous êtes un peu une de ces éminences grises, si j'ai bien compris, sur ce pèlerinage. et entre autres sur une initiative au-delà de l'affiche dont on vient de parler en ce début d'émission, qui est d'organiser un grand événement pour les journalistes et pas que les journalistes chrétiens à Lourdes, qui s'intitule, vous appelez ça même une war room pour les journalistes. Alors peut-être on va commencer par donner la parole au frère Olivier de Saint-Martin qui va nous expliquer brièvement ce que c'est et après vous nous soufflerez pourquoi vous l'aidez sur cette initiative. Frère Olivier de Saint-Martin, qu'est-ce que c'est que cette war room des journalistes à Lourdes? C'est la guerre à Lourdes cause de vous?
Alors essayez de dire ce qu'il y a une war room avec Natalia à côté. Natalia, il va falloir corriger si je dis des bêtises. Non, l'idée c'est d'avoir plusieurs personnes, de professionnels, parce que nous avons besoin de professionnels, de gens qui font des choses qui sont belles, qui sont profondes, mais qui sont, professionnels, pardon pour la redondance. Et du coup, on va avoir à la fois des gens qui prennent des photos, des gens qui font des vidéos, qui filment, qui montent, qui assemblent, des gens qui prennent des photos, qui les retouchent, qui les taguent, donc qui les marquent, qui ensuite les redonnent sur les réseaux sociaux, d'autres personnes qui vont écrire des blogs, qui vont pour de la presse écrite, qui vont écrire des articles, tout ce monde-là qui en fait travaille sur différents médias, il faut qu'ils soient ensemble. Ils sont ensemble, bon, c'est ce qu'on appelle la war room, c'est-à-dire que tout le monde travaille ensemble. Et voilà.
Alors vous, il y avait une intention supplémentaire, c'est d'essayer de faire venir des journalistes qui ne sont pas du bocal, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des médias chrétiens. C'était en tout cas, semble-t-il, une intention particulière cette année.
C'est-à-dire, ma première intention, c'était de dire comment est-ce qu'on peut parler de Lourdes autrement que ce que nous, on sait faire. Moi, je suis prêtre, je suis dominicain, je parle de Lourdes, j'aime Lourdes, mais j'en parle d'une certaine manière. Il y a des gens qui en parleront mieux que moi, ou en tout cas de façon différente. Donc ça, c'était le premier objectif. Et on a été très marqués en lançant ça, de voir qu'il y avait une véritable affluence d'apprentis journalistes, d'étudiants, de journalistes confirmés, de gens spécialisés dans la communication qui venaient à notre appel. Et puis il y a même des gens de la presse qui n'est pas catholique qui se sont dit, tiens, il y a quelque chose, qu'est-ce qui fait qu'ils viennent? Enfin, j'imagine. Et oui, on ouvre tout, les journalistes feront leur travail comme ils veulent.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Aujourd'hui, nous nous intéressons à la communication dans l'Église. A-t-elle changé? A-t-elle évolué? A-t-elle fait sa révolution comme le pape François? Est-elle vraiment missionnaire? Pour nous poser cette question, je reçois en plateau aujourd'hui le frère Olivier de Saint-Martin, qui est directeur du pèlerinage du Rosaire et prieur du couvent des Dominicains de Toulouse. Natalia Trouillet au téléphone, cette fois la connexion marche, qui est journaliste, spécialiste des communications et présidente de Noé 3.0. Et puis tout à l'heure, nous aurons Jean-Baptiste Maillard, je vous rappelle, qui est donc chargé de communication pour tout ce qui est web à la communauté de l'Emmanuel et auteur de Dieu et Internet. Natalia, est-ce que vous nous entendez bien ?
Je vous entends très bien.
Voilà, alors ma première question en cette deuxième partie d'émission vous revient, c'était de vous demander, vous, fort de votre expérience, on a parlé du pape François, on parle là du pèlerinage du Rosaire, c'est vous demander, est-ce que vous avez l'impression que l'Église s'est réveillée en matière de communication ? Est-ce qu'elle est sortie peut-être d'un certain retard ou d'un certain sommeil, ou est-ce que c'est une mauvaise question ? Dites-nous tout.
Non, c'est pas une mauvaise question. Simplement, la réponse est un petit peu plus complexe, me semble-t-il, parce que la communication dans l'Église, finalement, qu'est-ce que c'est ? Pour moi, en tout cas, et pour plein de gens aujourd'hui, hein, la communication, c'est de l'évangélisation à part entière. Sinon, après tout, il n'y a pas besoin finalement d'avoir des communicants dans l'Église. Si c'est pour faire ce que font les boîtes de com, on peut déléguer, et en plus, ça coûte moins cher au diocèse. Si on n'est pas dans un parti pris d'évangélisation, la communication dans l'Église, ça ne sert à rien. Or, aujourd'hui, on a deux chances. La première, c'est que, je suppose que vous, qui êtes journaliste, vous êtes aux avant-postes pour voir cela. Il y a vraiment l'Esprit Saint qui souffle par bourrasque sur notre pays. Il y a des tas de jeunes qui ont des idées révolutionnaires, des idées folles, qui veulent créer des choses, qui veulent s'impliquer, évangéliser, etc. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un outil absolument merveilleux qui est l'outil Internet, et qui permet finalement à très peu de frais de faire beaucoup de façon décalée, humoristique, sérieuse. Hein. On peut choisir vraiment cette tonalité, et ça c'est vraiment formidable et c'est nouveau.
Alors peut-être que vous nous donnerez des exemples. À ce sujet, moi je cite, j'ai retrouvé un document donc de Monseigneur Di Falco, qui est donc évêque de Gap, qui est un des grands spécialistes de la communication en France, en tout cas à destination d'Église. Pardon, la destination à l'intérieur de l'Église, je vais y arriver, mais aussi communication médiatique, qui entre autres a aidé au développement des prêtres, et qui en 2009, après toutes les affaires qui avaient pas mal secoué l'Église, l'affaire Williamson, l'excommunication donc des parents de cette petite fille qui avait procédé à un avortement, ou l'affaire du préservatif, on se souvient quand le pape François était allé en Afrique, il avait eu des propos sur le préservatif qui n'avaient pas toujours été très compris, et il bouscule l'Église depuis des années sur ces questions, et il citait entre autres les évangélistes, il les citait en exemple, disant que vraiment c'est des maîtres en matière de communication. Il disait la chose suivante, les sites catholiques sont centrés sur eux-mêmes et non considérés comme des outils pour évangéliser le monde. Alors, vous nous dites que ça va mieux, mais est-ce qu'on, entre guillemets, on n'a pas toujours un aiguillon que sont les évangélistes qui, eux, font toujours plus et ont l'impression qu'on leur court toujours après. Est-ce que c'est votre sentiment ?
Alors, les choses bougent quand même dans l'Église catholique depuis 2009. Cela dit, c'est vrai que les évangéliques ont un temps d'avance sur nous sur beaucoup de choses pour une raison très très simple, c'est que eux, ils ont toujours été minoritaires. Être majoritaire, ils ne savent pas ce que c'est, donc en fait, ils utilisent les armes des minoritaires, et les armes des minoritaires, c'est les sites internet, encore une fois, ça coûte assez peu cher, etc. C'est la constitution de lobby, voilà. Toutes ces armes des minoritaires, eux, ils les maîtrisent parfaitement bien, puisque, de toute façon, ils ne peuvent pas utiliser une voie de communication de mouvement majoritaire. Donc, les catholiques sont en train de se rendre compte, en fait, ça fait très longtemps qu'ils sont minoritaires, hein, mais ils sont en train de s'en rendre compte. Donc, du coup, ils adoptent aussi ces méthodes des minoritaires pour se faire entendre. Donc, c'est une très bonne chose, et gloire à Dieu. Après, il y a aussi quelque chose chez les évangéliques, qui est que leurs structures sont beaucoup plus souples et légères, et que finalement chaque chrétien évangélique est autorisé à parler à partir du moment où il est inspiré par la parole de Dieu. Dans l'Église, parfois, on a encore un peu des scrupules. Alors, est-ce que c'est à qui de parler? Est-ce que c'est aux laïcs? Est-ce que c'est... Enfin voilà, on se perd un petit peu parfois dans des choses comme ça, et c'est vrai que ça nous facilite pas la tâche, mais en même temps, ça nous garde aussi de faire des bêtises, et ça nous donne des garde-fous que par contre les évangéliques n'ont pas.
Alors frère Olivier de Saint-Martin, je vous vois sourire à cette remarque. Est-ce que c'est que pendant longtemps on demandait l'autorisation à son curé pour parler du bon Dieu?
Pas uniquement, c'est-à-dire que pendant ça existe encore, hein, dès qu'on a une publication dans l'Église, il y a un truc qui s'appelle l'imprimatur, c'est-à-dire que l'évêque dit voilà, c'est bon, on peut l'imprimer, il n'y a rien qui s'oppose à la foi, donc on peut le dire. Une des difficultés d'Internet, et pour l'Église c'est un vrai défi, c'est-à-dire que y a la part de vérité est beaucoup plus compliquée. Chacun parle de lui-même et chacun va se faire son opinion. Donc comment trouver quelque chose qui soit vrai au-delà de ce que je ressens comme vrai? Il y a quand même une petite différence.
Est-ce que vous avez un exemple?
Je peux ressentir comme vrai qu'on est mercredi, mais c'est pas vrai. Concrètement, on est vendredi aujourd'hui.
Oui, d'accord, mais on a compris. Mais imaginons pour un laïc qui se met sur Internet.
C'est-à-dire que je peux parler avec l'abondance de mon cœur et dire des choses qui ne sont pas complètement d'équerre. Vous savez, c'est ce cardinal qui s'est rendu compte qu'il avait été endoyé par sa nourrice à sa naissance au nom de Jésus Marie-Joseph.
Et qu'il avait été, pardon ?
Ondoyé, donc baptisé au moment de sa naissance, parce qu'il était, il était en danger de mort, et sa nourrice l'a baptisé au nom de Jésus Marie Joseph. C'est pas un baptême.
Donc elle le faisait avec tout son cœur.
Elle l'a fait avec tout son cœur, mais ça va pas. Donc
pas très juste.
Voilà, donc je peux avoir des attitudes qui sont pas très justes, mais enfin des conceptions qui sont pas très justes, qui vont toucher des gens qui me lisent sur Internet. Mais c'est pas juste. Du coup, il faut que l'Église arrive à faire vraiment confiance aux laïcs. Moi, je crois que c'est eux qui savent faire aussi. Et dans une saine collaboration, c'est-à-dire qu'on laisse les gens qui savent faire parler. Et moi, je suis persuadé qu'on n'a aucune inquiétude à avoir aussi. C'est-à-dire que plus on fait confiance, plus on collabore. Et tout le monde s'en porte mieux, surtout. Alors, l'évangélisation.
Nathalie Trouillet, vous, c'est votre expérience avec Noé 3.0. Vous pouvez peut-être nous dire ce que c'est. C'est quoi Noé 3.0? Vous avez reçu, semble-t-il, une lettre de mission de Mgr Barbarin pour développer ce projet?
Oui, Mgr Barbarin m'envoie en fait sur le continent numérique.
Mgr Barbarin, excusez-moi, je vous coupe la parole un instant pour rappel, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est donc l'archevêque de Lyon.
Oui, tout à fait. Parce que à un moment donné, justement, le continent numérique, ça c'est une expression qui date de Jean-Paul II, hein, donc les papes sont loin d'être en retard sur la compréhension de ce qu'est profondément Internet. Le continent numérique, en fait, c'est comme tous les continents à évangéliser, à chaque fois, l'Église a envoyé des missionnaires. Simplement, ces missionnaires, évidemment, il faut qu'ils soient formés, et il faut absolument qu'ils sachent comment faire, parce que par exemple si vous envoyez un missionnaire au fin fond de l'Afrique musulmane en tong avec juste un canif dans sa poche, ça il peut y arriver, mais ça va être compliqué. Donc nous, notre but à Noé 3.0, c'est vraiment de former, d'aider à la formation des laïcs en communication, et puis quelque part de faire sauter un verrou qui est un peu trop qu'on rencontre trop souvent en fait dans l'Église, qui est de se dire finalement la communication c'est un truc compliqué et qui coûte cher. Ben non, en fait ça coûte pas forcément très cher, c'est pas forcément très compliqué, simplement il y a des choses à savoir, il y a des codes à adopter, et nous on est là pour aider justement les chrétiens à s'emparer des outils de communication pour l'Évangile.
Alors c'est très bien, vous lisez dans mes pensées. Ma question avant qu'on fasse une pause musicale, c'était justement de vous demander, est-ce que dans le fond tout ça c'est pas d'abord un manque de moyens? C'est-à-dire que voilà, dans l'Église ce n'est un secret pour personne, il y a un certain nombre de diocèses en France vraiment qui tirent le diable par la queue, permettez-moi cette expression, en tout cas financièrement, et du coup on se dit bon, mettre le paquet sur les outils de communication, on essaye déjà de faire vivre nos structures, de faire en sorte que le toit ne s'écroule pas, on n'a pas les moyens de mettre énormément d'argent pour créer des espèces de machines qui s'adressent à tout à chacun. Alors je vois le frère Olivier de Saint-Martin qui s'impatiente, alors je lui donne la parole et je vous la donnerai tout de suite après.
Moi je crois que c'est un faux problème. C'est-à-dire que la capacité de contact qu'on a via Internet, ça dépasse infiniment ce qu'on est capable de faire avec un bulletin paroissial. J'ai été curé, j'avais un bulletin paroissial. Je le tire à 500 exemplaires tous les jours. Toutes les semaines. Je mets sur Internet une conférence, je peux toucher des dizaines de milliers de personnes.
Mais c'est votre expérience ?
L'expérience, on va voir. On a lancé une chaîne de prière aujourd'hui pour entourer tout le pèlerinage du rosaire, parce que vraiment le but, c'est quand même de présenter le Christ, c'est d'évangéliser, c'est pas de faire de la com pour la com. On va voir. Moi, je suis persuadé qu'on peut avoir 20 000 personnes à Lourdes. Allez, je lance un défi à vos auditeurs. Ils vont sur notre chaîne de prière et puis on est 50 000 à prier. À côté de Lourdes, on peut regarder des choses en direct, des conférences, on peut avoir des textes, on peut prier ensemble. Les moyens de communication permettent de faire le pont entre des gens qui ne sont pas à Lourdes, des gens qui sont à Lourdes, de faire pas uniquement du virtuel, on se rencontre, on prie ensemble, et puis on partage, et on touche un monde fou. Le retour sur investissement, d'abord il ne nous appartient pas, parce que c'est l'Esprit Saint, et puis ensuite, potentiellement, il est quand même beaucoup plus important que ce qu'on croit.
Natalia Trouillet, est-ce que c'est aussi simple ? C'est-à-dire que est-ce que bientôt, la moitié du pèlerinage du rosaire pourrait être numérique et virtuel ?
Alors, est-ce que c'est à souhaiter ? Je ne sais pas, parce que le mieux, c'est quand même...
Non, mais ils vont venir.
L'intérêt du virtuel, c'est de passer au charnel. Enfin, faut jamais oublier qu'on est une religion de l'incarnation. Et s'il n'y a pas, à un moment donné, une rencontre physique entre les personnes, on reste finalement dans du blabla. Quelqu'un qui se fait évangéliser par Internet, si après cette première approche, cette première évangélisation, il ne va pas voir son curé ou une communauté, etc., ça va pas marcher. Par contre, sur le prix de la communication, je crois aussi que c'est un faux problème pour une raison bien simple. C'est que en communication, on peut dépenser des centaines de milliers ou de millions d'euros pour faire consommer aux gens quelque chose. Sauf que si on dépense autant d'argent, c'est justement parce que finalement tout ça est un peu vide. Je prends l'exemple, par exemple, vous pouvez faire une immense publicité pour Coca-Cola, etc. Il va vraiment falloir mettre le paquet, en mettre plein la vue, créer des choses qui n'ont jamais été vues, etc. Parce que finalement, c'est jamais qu'une canette de Coca, quoi, et que les gens, s'ils en boivent pas, c'est pas très grave. Nous, on a cette chance dans l'Église de pouvoir d'avoir un message qui est absolument unique et qui est en lui-même bouleversant, qui touche tous les gens, parce que qu'on soit chrétien ou pas, qu'on soit athée ou pas, etc., tous, anthropologiquement, nous avons soif de miséricorde. Et qui peut apporter la miséricorde ? C'est le Christ par le biais de son Église. Donc le message, on l'a maintenant, il suffit juste en fait de l'adapter dans les codes du temps. Ce que toutes les générations avant nous ont fait. Hein. Vous voyez, par exemple, dans les années 60-70, on s'est rendu compte que la parabole du levain dans la pâte était vachement intéressante, et donc, à cette époque-là, parce que c'était une société donnée, on s'est dit, bon, il faut qu'on s'enfouisse dans la société, qu'on ne dise pas forcément qu'on est chrétien, parce que ce sera comme ça, les gens vont voir qu'on est chrétien, et ce sera encore mieux. Aujourd'hui, cette même parabole du levain dans la pâte, eh bien, on peut la lire en se disant, c'est la définition du lobby, finalement, c'est-à-dire le petit truc qui s'infiltre et hop, qui fait gonfler tout le reste. Donc, on peut lire les choses différemment selon les époques, et c'est très bien.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo.
Me. présence dans la vallée du Lot, 92.5. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Aujourd'hui, nous intéressons à la communication de l'Église. Est-elle vraiment missionnaire? Nous avons fait un point sur cette bête médiatique, entre guillemets, avec tout le respect qu'on lui doit, qui est le pape François, mais aussi donc le frère Olivier de Saint-Martin, donc directeur du pèlerinage du Rosaire et prieur du couvent des Dominicains de Toulouse, qui lance cette année encore une initiative bien culottée, pourrait-on dire, donc avec cette affiche « Tu fais quoi le 7 octobre, j'ai piscine, 8 mai à Lourdes ». Et puis nos deux autres invités, Nathalia Trouillet, donc, qui est journaliste, spécialiste des communications, présidente de Noé 3.0, et maintenant Jean-Baptiste Maillard. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour Emmanuel.
Et vous êtes donc en charge de la communication Internet pour la communauté de l'Emmanuel et auteur de Dieu et Internet aux éditions des Béatitudes. Alors ma question pour vous, on en a déjà parlé un petit peu, vous, votre dada, votre spécialité, c'est l'évangélisation sur le web. Je sais que vous avez un certain nombre de projets en tête et plus sur ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être quelle est aujourd'hui l'urgence pour vous de l'évangélisation sur Internet et surtout votre expérience? Est-ce que vous pouvez nous citer des exemples où vous allez sur Internet et vous essayez de parler de Dieu avec les gens sur Internet?
Oui, alors l'urgence, elle est absolue. L'urgence, c'est pour répondre à l'appel de Saint-Pierre dans sa première lettre quand il dit « Soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous ». Il ajoute d'ailleurs « Faites-le avec douceur et respect ». Cette douceur et ce respect sont très importants. Et je vais vous donner un exemple très concret, immédiat de cette urgence. Il y a une série qui s'appelle « Ainsi soit-il », dont la troisième saison arrive sur Arte le 8 octobre. On s'attend, selon nos projections, à ce qu'elle soit vue, en tout cas le premier épisode, environ 700 000 fois. Et nous, avec une équipe, une joyeuse bande de jeunes, en 2012, on a fait un site internet en réservant le nom ainsi-soit-il.com parce qu'ils avaient oublié de le faire. Et on a eu 100 000 visites à chaque saison. Et donc là, on s'attend encore à avoir à peu près 10% de l'audience d'Arte.
Alors peut-être, donc, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez monté cette initiative? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a dans cette série sur Arte qui vous a piqué au vif et vous vous êtes dit, c'est pas possible, on peut pas rester sans rien dire?
Eh bien, c'est une série qui prend pour prétexte la vie de 5 séminaristes dans un séminaire parisien absolument inconnu au bataillon. Et en fait, on y retrouve tous les clichés que l'on trouve habituellement en évangélisation, que ce soit en évangélisation sur Internet ou dans la rue ou ailleurs. Et donc, elle soulève énormément de questions. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas de rentrer dans une confrontation stérile, mais d'essayer un dialogue et d'essayer de répondre à toutes les questions que se posent les internautes. Et on en reçoit énormément. Par exemple, une des dernières questions qu'on a reçues, c'est Lydia qui l'a postée sur notre site, puisqu'il y a un formulaire pour envoyer ses questions, c'est comment faire pour avoir la foi? Et évidemment, il y a plein d'autres questions autour de l'Église. Il y a quelques minutes, vous parliez de la pédophilie. Il est question de pédophilie dans l'Église dans cette troisième saison, une pédophilie qui est évidemment couverte par les évêques, voire le pape qui est dépeint comme totalement sénile, etc. Eh bien nous, on en profite justement pour rebondir et dire voilà ce que le pape a dit, comme Nathalie l'a très bien expliqué tout à l'heure, voilà ce que le pape peut proposer comme message, voilà ce que les évêques disent, voilà des témoignages de prêtres, parce qu'on fait aussi contribuer beaucoup de prêtres. Là par exemple, il y a le père Guiton, fondateur de la communauté MKRM, qui vient de nous envoyer son témoignage, on va le publier, on en a d'autres qui sont en train d'arriver. Alors, et on répond à toutes ces questions.
Jean-Baptiste, peut-être pour bien comprendre, donc pour comprendre que c'est pas des initiatives seulement pour se faire plaisir. Donc c'est pas des initiatives de défense ou qui pourraient avoir un côté un peu peut-être guerrier ou mal compris. Oui. Est-ce que vous pouvez, je repose ma question du début, vous nous avez cité l'exemple de Lydia. Vous, quand vous vous baladez sur les réseaux sociaux et pas seulement, hein, aussi dans les mondes virtuels qu'il y a sur Internet, sur lesquels les jeunes sont très présents aujourd'hui, quel type de conversation vous arrivez à avoir avec les gens? C'est-à-dire que, est-ce que dans le fond, il n'y a pas que vous que ça intéresse? Est-ce que vraiment les gens posent des questions sur le sens de la vie dans tous ces réseaux sociaux ou ces mondes virtuels?
Oui, ça m'arrive régulièrement d'avoir des conversations, notamment par les chats, les forums de discussion, et ils ont des questions très très profondes sur le sens de la vie, tout simplement.
Par exemple, qu'est-ce qu'ils vous demandent?
Bah, par exemple, si Dieu existe, pourquoi le mal? Ça, c'est extrêmement fréquent. Quel est le sens de l'existence? Qu'est-ce que aimer sans arrière-pensée? Toutes les questions autour de la vie et de l'amour, les questions aussi autour de la sexualité, qui sont des questions énormément posées, énormément demandées, et les questions aussi sur la vie après la mort. Ça, c'est quelque chose aussi qui revient énormément. Et ça, c'est pas propre simplement aux chrétiens, c'est aussi propre à tous les non-croyants, tous ceux qui sont loin, qui sont aux périphéries, ils ont énormément de questions là-dessus. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qui va se passer après? Et c'est vraiment la question du Christ derrière qui se pose sans le savoir. Hein. Jésus qui a dit en Saint Jean, je suis le chemin, la vérité et la vie. En fait, derrière le chemin, la vérité et la vie, il y a énormément de questions. Et vous savez aussi que dans Google, les questions les plus tapées sont dans l'ordre qu'est-ce que l'amour, comment embrasser et qui est Dieu? Et ça, c'est des questions qui reviennent régulièrement que Google donne, voilà. Et ces questions, autour d'elles, il y a d'autres questions qui se greffent. Par exemple, dans la catégorie qui est Jésus, est la quatrième question la plus posée.
Alors, je vous donne la parole, frère Olivier de Saint-Martin. Vous me disiez tout à l'heure, en préparant cette émission, que quand on est prêtre ou quand on est curé ou vicaire, on peut faire une feuille paroissiale, mais peut-être qu'il y a une autre manière aussi, c'est tout simplement d'aller sur les réseaux sociaux. Alors, on peut pas tout faire quand on est prêtre ou quand on est curé, mais vous, en tout cas, sans vouloir donner de leçons à personne, c'est votre expérience. Vous avez essayé de faire les deux. Et on peut dire que vous avez rejoint une espèce de paroisse invisible ou une paroisse numérique en fait qui était à portée de main.
Ben, je crois que quand on édite une feuille sur papier, on donne de l'information. Ce que dit Jean-Baptiste est très juste. Internet est vraiment un lieu de dialogue. Je veux dire, on affirme ses positions. Il y a un côté un peu rugueux parfois dans les dialogues sur Internet. C'est-à-dire qu'on affirme ses positions et on entre vraiment en dialogue. Et là, on commence à toucher des tas de personnes qu'on ne pourrait pas toucher autrement. Ma feuille paroissiale, de toute façon, elle ne dépasse pas le cadre physique de ma paroisse. Internet, n'importe qui peut se connecter à un site, n'importe qui peut poser une question. Il faut qu'il y ait du monde pour répondre. Alors le curé...
Est-ce que vous avez un exemple, vous, c'est ce que vous avez fait à un moment et quel a été le résultat? C'est-à-dire, est-ce que vous avez réussi à rentrer en dialogue avec des gens que vous voyez jamais, en fait, dans votre paroisse?
Ah ben évidemment.
Par exemple, un souvenir? Une rencontre.
Souvenir.
Qui vous aurait marqué peut-être et qui vous servirait d'aiguillon aujourd'hui.
Mais ça, j'en ai pas qui me sert vraiment d'aiguillon. C'est-à-dire que c'est une conviction profonde plutôt qu'il faut qu'on réponde à des questions. Les premières questions qui sont venues, elles sont venues, par des mails, des gens qui voyaient un mail, qui écrivaient à un curé de façon un peu anonyme, des gens qui pouvaient être révoltés par quelque chose qu'ils avaient vécu, enfin des histoires très personnelles. Et puis, le dialogue s'instaure. Moi, je vois que dès qu'on est présent sur Internet, à travers un site, à travers les réseaux sociaux, les gens parlent, les gens se confient, et très très rapidement.
Alors, de fait, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Alors, vous me direz, tout le monde ne peut pas faire sa révolution Internet. Cette question est ouverte, elle s'adresse à tout le monde, peut-être particulièrement à Natalia Trouillet, avec Noé 3.0, qui, si on l'a bien compris, est aussi un outil de conseil. Est-ce qu'il n'y a pas une révolution aussi pastorale, hein? C'est-à-dire que quand on est prêtre, quand on est curé, quand on est laïque en mission, comment faire pour rejoindre toutes ces personnes qui sont sur le continent numérique? Tout le monde ne peut pas tout faire, mais en même temps, cette révolution semble nécessaire, Nathalie Trouillet.
Tout à fait. Après, je crois que là, on bute sur quelque chose d'un peu plus profond, parce qu'encore une fois, la communication, finalement, c'est le révélateur de beaucoup de choses. En fait, on se rend compte que dans nos paroisses, très souvent, pas toujours, hein, parce qu'il y a des paroisses qui ne sont pas du tout comme ça, mais justement, le bulletin paroissial, qui est un outil de diffusion, on ne se pose pas la question de savoir si on ne diffuserait pas à l'extérieur. Parce que finalement, quand on communique entre nous. On communique sur nos propres codes et du coup, on laisse en route des tas de gens qui ne sont pas du tout de mauvaise volonté, mais qui finalement ne comprennent pas notre langage. On ne parle pas la même langue, en fait. Donc, ils comprennent pas et donc ils passent à côté. Ce que Jean-Baptiste disait est très intéressant. C'est vrai que sur l'actualité, c'est vrai qu'à Noé aussi, hein, on a réagi à certaines choses qui n'étaient pas justes et qui n'étaient pas vraies. fait sur l'Église ou sur le Christ, l'actualité médiatique, voilà, enfin sur RATP, l'affaire de l'affiche des prêtres, etc. On a beaucoup travaillé, mais c'est pas notre propos d'être toujours en réaction contre. En fait, la parole de Jésus, c'est une parole qui est positive. Il nous dit pas les autres sont des méchants, il nous dit allez vers tout le monde. Donc ce qu'on essaye de faire, en fait, c'est des opérations qui soulèvent l'enthousiasme des gens, et notamment des jeunes, parce que quand on est jeune, on est bourré d'enthousiasme et on rêve d'un grand combat chevaleresque, et ça tombe bien, le Christ il nous le propose ça. Donc, par exemple, quand on a monté l'opération de communication autour du voyage du cardinal Barbarin à Erbil, en Irak, autour de la fête des Lumières, ce qu'on voulait, c'est voilà simplement montrer un cardinal qui va seul et sans armes, allumer des bougies dans des tentes, donc faire un truc héroïque et inutile, en fait, pendant que d'autres décapitent des gens. Et ça a soulevé l'enthousiasme parce que ce genre d'image-là, ça parle au cœur des gens. Ça parle au cœur des gens parce qu'on a tous, qu'on soit chrétien ou pas, encore une fois, on a tous dans le cœur finalement le désir de connaître Dieu. C'est une donnée anthropologique, hein. Il n'y a pas de gens sur Terre qui sont nés et qui n'ont pas envie de connaître Dieu. Alors après, ça peut se cacher sous des tas de choses, etc. Et il suffit finalement qu'on leur montre la grandeur et la beauté du sacrifice du Christ, et en fait, les gens, ils viennent du coup.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Aujourd'hui, nous nous posons ensemble cette question, la communication de l'Église est-elle vraiment missionnaire? Avec nos invités, frère Olivier de Saint-Martin, directeur du pèlerinage du Rosaire et prieur du couvent des Dominicains de Toulouse, Nathalie Trouillet, journaliste, spécialiste des communications, président de Noé 3.0, et Jean-Baptiste Maillard en charge de la communication web pour la communauté de l'Emmanuel, auteur de Dieu et Internet. Vous m'entendez tous? Vous êtes toujours présents avec nous, Jean-Baptiste et Nathalie? Alors, ma question va à Jean-Baptiste. On a beaucoup de, évidemment, parlé puisque c'est le thème de communication, d'internet, etc. dans cette émission. Le problème, ça serait d'avoir peut-être un propos un peu trop intellectuel. Moi, j'ai souvenir, Jean-Baptiste, puisque je vous connais dans la vie civile, d'une conversation avec vous où vous me décriviez une fois des gens que vous aviez rencontrés via internet, qui étaient en fait des personnes, des jeunes qui se scarifiaient. Et qui par les réseaux sociaux essayaient de partager avec d'autres cette détresse qu'ils vivaient et crier leur détresse. Alors on va dire dans ces cas-là il faudrait peut-être un SOS scarification, une association spécialisée. Il n'empêche qu'ils vous posaient aussi des questions de sens. Derrière il y avait semble-t-il des questions plus graves. Est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement cette expérience, Jean-Baptiste, de rencontre de ces personnes?
Vous savez, l'évangélisation par Internet, c'est une évangélisation de miséricorde et il y a un immense troupeau sans berger. Et effectivement, il y a des gens qui se scarifient, il y a des jeunes qui sont encore dans les groupes d'apéro géants, etc. Alors cette histoire...
Dans les groupes 2, pardon courte, dans...
d'apéro géants, et on peut aller faire un porte-à-porte vers eux via les réseaux sociaux et leur parler, leur donner des petits passages de la parole de Dieu sur la soif, et alors commencent des conversations extraordinaires.
Mais alors, donnez-nous cet exemple précis peut-être des personnes, une personne avec qui vous avez eu cette conversation qui vous disait sa détresse.
Sur la scarification, je vais vous raconter l'histoire. J'avais une petite structure de création de site internet il y a quelques années, et un jour quelqu'un vient me voir, c'était le voisin d'un ami qui était absolument pas voilà. Il me dit, j'ai besoin de faire un site. Alors je lui dis, écoutez, très bien, dites-moi ce que vous voulez, et il me dit, je voudrais faire un forum sur le thème de l'auto-scarification. Donc je lui fais son forum, et voilà qu'en quelques jours, ça s'est passé très très vite, il s'est retrouvé avec 40 000 messages de jeunes qui se scarifiaient parce qu'il était bien référencé, le site, et du coup plein de jeunes venaient parler avec les autres, et les jeunes jetaient des appels au secours terribles, au secours, je viens de scarifier, ça y est. Et il est venu me voir un mois après, il m'a dit, écoute Jean-Baptiste, si vous voulez bien, on arrête tout, parce qu'on a trop de messages, je suis incapable de répondre, je ne suis pas formé, je n'ai pas la formation pour ça, et donc je vais tout arrêter, je suis ingénieur, j'arrête tout. Il était ingénieur, il avait un haut poste chez Alcatel, et il a tout arrêté, tout plaqué, et il est allé se former, et il est devenu psychothérapeute, et après il a repris cette activité pour aller essayer d'aider ces gens. Mais en fait, derrière, dans les conversations qu'il y avait, dans les messages qu'il laissait et qu'il nous laissait, qui me laissait aussi d'une certaine façon parce que j'étais administrateur du site, on voyait qu'il y avait un SOS terrible de quel est le sens de la vie, pourquoi je suis là, pourquoi je suis sur Terre. Et ces questions, elles reviennent toujours systématiquement, d'ailleurs, quelle que soit l'évangélisation.
Frère Olivier de Saint-Martin, peut-être vous pouvez réagir à cet exemple. Alors, l'idée, c'est de pas forcément tomber dans le pathos ou de se servir de la misère des gens pour bien montrer qu'on a raison de faire ce qu'on fait. Mais bon, malgré tout, ça interpelle, quoi, ça.
Bah, bien sûr, une auto-scarification, c'est quoi, en fait? C'est le révélateur d'un profond mal-être. Je ne m'aime pas moi-même. Et j'ai besoin, j'ai envie de dire, d'être accompagné. J'ai besoin qu'on me dise que j'ai du prix aux yeux de Dieu et que j'ai du prix aux yeux des autres. Et justement, moi, je crois que ce continent numérique, il nous révèle quoi? Il nous révèle que, à la fois, on a une connectivité incroyable, les uns avec les autres, et en fait, il y a des enquêtes qui montrent que les gens n'ont jamais été aussi seuls. C'est-à-dire que ces espèces de relations virtuelles qu'on a parfois ne conduisent pas au réel dont parlait Nathalie tout à l'heure. Les gens sont hyper seuls. Et notre présence dans ce monde, un monde dont on ne doit surtout pas avoir peur, parce que c'est le monde tel qu'il est, c'est un monde qui appelle l'Évangile. L'Évangile n'y est pas suffisamment présent, mais allons-y, fonçons, annonçons le Christ. Et annonçons le Christ d'une telle manière qu'on dise aux gens, vous avez du prix à nos yeux, vous avez du prix aux yeux de Dieu. Et ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire concrètement, on prend contact, et tous les dialogues, tout ce qu'on vous montre, c'est pour vous, ça doit conduire à une rencontre personnelle avec le Christ, à une rencontre personnelle avec l'Église. Hein. Internet, il y a une espèce de fractionnement des personnes, je suis tout seul derrière mon écran. Eh bien, la présence du Christ doit permettre aux uns et aux autres de se rapprocher les unes des autres et de former ce corps qui s'appelle l'Église et qui est le corps du Christ.
Merci à nos invités de nous avoir aidés à prendre conscience de cet enjeu important, si ce n'est essentiel pour l'Église aujourd'hui, aller non pas à la conquête, mais à la rencontre de ce continent numérique. Je vous rappelle pour finir une citation toujours de Mgr Di Falco, donc grand spécialiste des communications, qui disait « Aujourd'hui nous avons besoin de cathédrales, mais ces cathédrales ce sont des cathédrales virtuelles, ce sont les médias, les outils de communication et évidemment les réseaux sociaux ». Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet radioprésence.com. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi où nous parlerons de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00. Ou par mail à contact@radioprésence.com.